tout le monde. Donc, je dis toujours souvent, je suis très content d'être parmi vous ce matin. Effectivement, je viens régulièrement en métropole parce que nous avons notre fille qui fait ses études à Montpellier. Donc, c'est la raison pour laquelle, et c'est toujours avec joie, que je viens visiter mon ancienne église où j'ai grandi, j'ai persévéré dans la foi, et cette église, je le dis, occupe une place particulière dans mon cœur. Et cela me fait toujours de revoir les anciens, mes combattants, hein, nous étions des combattants dans cette communauté, et de voir ce que Dieu fait au sein de votre communauté. Je dis notre communauté, puisque c'est dans mon cœur aussi cette communauté. Je suis accompagné de mon épouse et de ma sœur bien-aimée, son mari Philippe. Donc voilà. Donc ce matin, le titre de la prédication de ce matin est le suivant. La puissance de la prière. La puissance de la prière. Et je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, la lettre des Actes des Apôtres, au chapitre 12. Nous allons lire les versets 1 à 17. Actes des Apôtres, chapitre 12, nous allons lire les versets 1 à 17. Donc, nous pouvons commencer notre lecture à partir du verset 1er du chapitre 12 du livre des Actes des Apôtres. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison. Sans relâche, la prière montait de l'église vers Dieu pour lui. Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Puis il lui dit, « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Il en fit ainsi. L'ange lui dit, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Revenu à lui, Pierre dit, « Maintenant, « je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante du nom d'Hérode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là devant l'entrée. Ils lui dirent, « Tu es folle !» Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi et lui dirent, « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire, le raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison et dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Quand nous pensons aux premiers chrétiens, l'image, la représentation que nous avons de ces premiers chrétiens, C'était des personnes zélées. C'était des personnes qui ont bouleversé leur époque. C'était des personnes qui ont bouleversé leur entourage. C'était des personnes remplies de foi. C'était des personnes qui vivaient vraiment la communion fraternelle. Souvent, c'est cette image que nous gardons des premiers chrétiens. Et je pense et je crois que nous devons garder cette image-là de ces premiers chrétiens. Ce récit que nous venons de lire mentionne un aspect que nous oublions bien souvent. La vie chrétienne n'était pas un fleuve tranquille pour les premiers chrétiens. Ces chrétiens étaient persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ, voire mis à mort. Nous avons plusieurs récits des actes qui relatent des personnes, Étienne, qui a été lapidé à cause de sa foi en Jésus-Christ. Les 5 premiers versets décrivent la réalité que Hérode a fait mettre, ils ont tué Jacques, et a fait mettre Pierre en prison. Et cela plaisait aux Juifs, puisque c'était l'évangile de Jésus-Christ qui a été annoncé. Nous vivons dans un pays qui est libre, où nous avons la possibilité de témoigner de notre foi, de vivre notre vie chrétienne, mais ce n'est pas toujours évident dans tous les pays. Je me rappelle quand j'ai fait mes études bibliques en 1992, il y avait un jeune, je ne me rappelle plus s'il était de l'Algérie ou du Maroc, mais il était de l'Afrique du Nord. Ce jeune homme s'était tourné vers Jésus-Christ, s'était converti, il avait donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et ses parents, sa famille qui était musulmane, étaient très choqués et ne voulaient pas qu'il parle de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont suspendu par les pieds et ils ont dit, tant que tu ne renieras pas Jésus-Christ, on ne va jamais te libérer, tu mourras s'il le faut. Et ce jeune homme a dit, non, je ne peux pas renier Jésus-Christ, je ne peux pas renier ma foi. Dans sa souveraineté, Dieu a permis qu'un de ses oncles vienne le libérer en cachette et il a pu s'enfuir. Quitter sa famille, quitter son pays, et il est venu à l'Institut biblique pour être formé, pour être pasteur. Et maintenant, il annonce l'évangile de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ autour de lui. Combien d'entre nous seraient prêts à consentir un tel sacrifice, quitter son pays, quitter sa famille, à cause de sa foi en Jésus-Christ? Nous ne subissons pas ça, hein. Quand nous regardons la vie de tous les jours. Mais sachez, dans le monde, il y a des chrétiens qui vivent la persécution tous les jours à cause de leur foi en Jésus-Christ, à cause de leur espérance dans le Seigneur Jésus-Christ. Le verset 4 nous dit dans ce chapitre que Pierre est mis en prison. Et quelle est la réaction de l'Église au verset 5? Sans relâche, la prière montait de l'église vers Dieu pour lui. Sans relâche, la prière montait de l'église vers Dieu pour lui. C'est-à-dire, l'église intercédait. L'église priait pour Pierre. Le frère Jean-Pierre, dimanche dernier, a expliqué ce qu'est l'église. Le terme église dans la Bible n'est jamais destiné, utilisé pour décrire le bâtiment. Nous disons c'est la maison de Dieu. Le terme église dans la Bible est utilisé pour décrire les chrétiens, des personnes et non un bâtiment. C'était pas le bâtiment qui priait pour l'église et pour Pierre, ce sont les personnes dans le bâtiment qui priaient pour Pierre. Et c'est ça le terme église, nous sommes l'église du Seigneur. L'église, ce sont les personnes et non un bâtiment. Nous disons que nous allons à l'église, dans un lieu. Mais le terme église dans la Bible désigne les chrétiens, l'ensemble des rachetés du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle il est dit, sans relâche, la prière montait vers l'église vers Dieu pour lui. C'est-à-dire, les personnes qui étaient rassemblées priaient pour Pierre. Cela montre que les premiers chrétiens priaient. avec persévérance, avec ferveur pour l'apôtre Pierre. Malgré la persécution, malgré la mort de Jacques, malgré l'emprisonnement de Pierre, les chrétiens se réunissaient. Faisons le parallèle avec nous. Si nous vivions la persécution, votre pasteur est tué, vos anciens sont mis en prison, est-ce que vous allez continuer à venir à l'église? Beaucoup d'entre nous auraient arrêté de venir à l'église. Pas besoin de cela, le Covid est passé par là. Regardez ce que le Covid a fait. Beaucoup de personnes ont abandonné la foi, se sont écartées de la foi. Quelquefois, ils vous disent, je ne vais pas à l'église parce qu'il y a Covid. Mais on les voit au supermarché, on les voit dans leur travail. Mais pour venir à l'église, c'est un problème. Hein? Eh bien, malgré la persécution, malgré la mort de Jacques, eh bien, les chrétiens ont continué à se réunir et à prier pour l'apôtre Pierre. Et j'aimerais vraiment souligner l'importance de l'église locale, de la prière communautaire, l'aspect communautaire de l'église, l'aspect solidaire et non solitaire de l'église. Vous savez, nous vivons dans une société très individualiste et cela a un impact sur l'église. Les gens sont de plus en plus individuels et ça impacte la communauté. Mais quand nous regardons l'Église au 1er siècle, le début de l'Église primitive, les gens étaient ensemble. Ils persévéraient main dans la main. L'Église, ce n'est pas une invention humaine. C'est le dessein de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je bâtirai mon Église et les portes du séjour ne prévaudront point contre elle. C'est l'œuvre du Seigneur. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu pour bâtir son Église, pour construire son Église. Les chrétiens en solitaire, en solo, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Cela ne glorifie pas Dieu. Et quelquefois, vous voyez beaucoup de gens ne fréquentent pas les communautés. Ils vous disent, je suis par Internet. Sur Internet, c'est quoi? Ils sont des consommateurs. C'est-à-dire, ils n'apportent pas un sourire, ils n'apportent pas une salutation, ils consomment. Et l'Église du Seigneur, c'est un lieu où la communion fraternelle prime. Et donc, quand nous regardons bien ce texte-là, les chrétiens se réunissaient pour prier. Malheureusement, les réunions de prière sont les moins fréquentées des communautés. Je me rappelle, je vis en Guadeloupe, nous avons une petite communauté d'une soixantaine de personnes. Au début, nous étions 3-4 qui venaient prier, une soixantaine de personnes venant le dimanche. Et dans la semaine, réunion de prière, 2, 3, 4 personnes. Au fur et à mesure, les fidèles ont commencé à venir à prier à l'église. Et le Seigneur a suscité un réveil des conversions, des âmes qui se repentent de leurs péchés. Jusqu'à ce que l'église de 3-4 personnes atteigne au moins une vingtaine, une trentaine de personnes qui venaient à la réunion de prière. Vous voyez, c'est ça. C'est ça, c'est la volonté de Dieu. Les gens ont pris conscience qu'il fallait venir prier. La prière communautaire était très importante au sein de l'Église. Ce n'est pas réservé pour les personnes âgées, hein, la prière. Donc, les personnes venaient à l'Église pour prier. Ça, c'est le plan de Dieu pour l'Église. Et la prière fait bouger les lignes. Les choses changent, la vision de l'Église. L'Église prend un nouvel élan. Mais Pierre est jeté en prison. Pierre est jeté en prison et regardez au verset 6, on nous dit qu'il est gardé. Il dort au milieu à côté de 2 soldats. Vous êtes jeté en prison et Pierre dort tranquillement au milieu de 2 soldats. tranquille, il dort. Pourquoi? Tout simplement, il a la paix intérieure. Il sait que Dieu, le Dieu qu'il sert, est un Dieu tout-puissant. Et que rien ne peut lui arriver sans la permission de son Dieu. Rien ne peut lui arriver. En tant que chrétien, nous devons croire à la souveraineté de Dieu dans notre vie. Peu importe les circonstances par lesquelles nous passons ou nous passerons sur cette terre. Et à partir des versets 7 à 10, qu'est-ce que nous voyons? L'intervention miraculeuse du Seigneur. Nous lisons les versets 7 à 10. Qu'est-ce qui se passe? Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, puis dit, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et attache tes sandales. Et l'en fit ainsi. L'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit, le suivit, ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Pierre était bien gardé. Les chaînes tombent. Il passe la première garde, la deuxième garde, et la porte de fer s'ouvrit d'elle-même. Quand je lis la Bible, quand je lis l'Ancien Testament, je dis, Seigneur, pourquoi tu ne fais pas de telles choses comme tu l'as fait dans le passé? Tu as fendu la mer en deux pour que ton peuple puisse passer. Quand je vois le Nouveau Testament, tous les miracles, je dis, Seigneur, pourquoi tu ne fais pas cela encore aujourd'hui? Pourquoi ces miracles qui se produisaient au début de l'Église primitive, pourquoi elles ne se produisent plus de nos jours? Puisque tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Mais il faut savoir deux choses. Tous ces miracles qui se produisaient, c'était pour montrer d'abord au peuple juif qu'il servait le seul vrai Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur de l'univers. Et deuxièmement, c'était le début de l'Église primitive. Il fallait que Dieu manifeste son œuvre, montrant par là qu'il est le seul vrai Dieu. L'unique Dieu est Dieu. Le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre que lui. Mais nous oublions pourquoi Jésus-Christ est venu. Quel est le but? C'est ce que nous avons lu dans Matthieu 28, verset 19. Jésus, avant de quitter cette terre, qu'est-ce qu'il a dit? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pour ça que Jésus est venu. Et dans le monde entier, des miracles se produisent tous les jours. Tous les jours dans le monde entier, des hommes et des femmes se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ, se repentent de leurs péchés, reconnaissent leur état de perdition devant Dieu et se repentent de leurs péchés et donnent leur vie au Seigneur Jésus et marchent avec le Seigneur. Et ils sont passés des ténèbres à la lumière. Ils sont devenus enfants de Dieu. Et c'est ça le but de l'Église, c'est annoncer ce message de l'Évangile, ce message de vie. Et c'est un miracle, une conversion, c'est un miracle. Bien souvent, nous, en tant que chrétiens, nous voulons voir des choses extraordinaires. Mais nous perdons la vie, l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est que les gens entendent l'Évangile et soient sauvés. Passent des ténèbres à la lumière. C'est cela, hein, le miracle le plus important. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de l'Évangile. Et je crois le plus grand miracle, quand je prêche la parole, que ce soit avec mes collègues, dans mon entourage, c'est quand une âme se donne au Seigneur. Je dis, Dieu, tu es merveilleux, c'est un miracle. Ne soyons pas focalisés sur les manifestations. Soyez focalisés par les âmes des hommes et des femmes qui changent de vie, que Dieu a touché leur cœur et qui ont donné leur vie au Seigneur et qui marchent en nouveauté de vie jour après jour avec le Seigneur. C'est ça un miracle. Et non des grandes manifestations. Non. Le plus grand miracle. Et une fois libéré, au verset 11, Pierre, il croyait qu'il rêvait. Hein? Il était dans, voilà, il croyait qu'il rêvait. Mais quand il est sorti de sa vision, il voit, il a bien les pieds sur terre au verset 11. Il reconnaît que c'est Dieu qui est intervenu en sa faveur en le libérant de la prison. Et où il va se diriger? Où il va se diriger? Quand il a pris conscience qu'il était libéré, où se dirige Pierre? Verset 12. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 12? Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. C'est pour ça que l'Église, Paul dit, saluez l'Église qui est dans ta maison. Ce n'était pas la maison qu'on saluait, c'était les personnes qui se réunissaient dans la maison. C'est ça l'Église. Eh bien, Pierre se rend auprès des croyants, chez les chrétiens, dans une église où les gens priaient. Et au verset 13, nous voyons la réaction de Rod. Pierre frappe. Au lieu que d'ouvrir Pierre, elle laisse Pierre à la porte et elle va l'annoncer aux autres. Voyez, on peut dire que la réaction de Rod est un peu insensée. Hein? Voyez, souvent nous lisons la Bible à la lumière de nos expériences personnelles. Il m'est arrivé quelque chose. Je vois une voiture qui fait marche arrière. Je suis stationné, mais je vois qu'il ne me voit pas. Au lieu de klaxonner, qu'est-ce que je fais? Je baisse la vitre, je sors ma tête pour lui dire hey, hey! Bien sûr, il meurt dedans. Quand vous dites, il est fou, il n'est pas fufute, hein, il suffisait de klaxonner. Mais ça n'a pas été mon réflexe. Eh bien, Rod, au lieu d'ouvrir, eh bien, elle va l'annoncer aux autres. Et au verset 15 à 16, nous voyons quoi? L'incrédulité des disciples. Il priait pour Pierre sans relâche, avec persévérance, avec foi. On dit sans relâche, la prière de l'Église montait vers Dieu pour lui. Sans relâche, avec insistance, avec ferveur, avec persévérance. Et quand Rod va leur dire, Pierre est là, tu es folle. Elle insiste, c'est son ange. Et pourtant, il priait sans relâche. La prière de Dieu et de l'Église montait vers Dieu pour lui. Souvent, je m'y inclus, hein, nous prions. Nous disons que Dieu est un Dieu tout-puissant. Mais quelquefois, dans nos forts intérieurs, nous ne croyons pas que Dieu est capable de faire telle chose. Et avec l'expérience, le Seigneur nous montre, nous fait des clins d'œil, comment il répond de façon miraculeuse à nos prières. Et à ce moment-là, on s'incline, on dit, Seigneur, pardon d'avoir douté de ta puissance. Et ce sont ces expériences-là que le Seigneur nous permet de vivre jour après jour pendant notre vie ici-bas pour que nous apprenions à avoir plus de confiance en lui. quand Dieu répond de façon extraordinaire, à une réponse inattendue, inespérée. Là, nous disons, Seigneur, j'ai pas cru. Hein. Mais heureusement, le Seigneur ne répond pas en fonction de notre foi. Combien de prières ne seraient pas exaucées si le Seigneur répondait uniquement en fonction de notre foi? Mais bien, ces hommes qui aimaient Dieu, qui persévéraient dans la prière, qui continuaient à servir Dieu malgré la persécution, malgré la mort de Jacques, eh bien, étaient incrédules de voir l'intervention du Seigneur en faveur de Pierre. Mais le Seigneur, comme nous l'avons chanté, est un Dieu bon, est un Dieu fidèle. Son amour dure éternellement. Eh bien, malgré quelquefois notre infidélité, malgré quelquefois notre incrédulité, Dieu exauce nos prières. Parce qu'il est bon. Et je suis fier de servir ce Dieu, le Dieu créateur, le Dieu de l'univers, le Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ, qui est le seul chemin, la seule vérité. Ce n'est pas un chemin parmi tant d'autres. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est bien l'article défini. Hein? Ce n'est pas une vérité, c'est la vérité. Eh bien, ce Dieu-là, et c'est ce que Genèse, dans le livre de Genèse, chapitre 18, verset 14-15, il dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part du Seigneur, ou y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Non, rien n'est étonnant de la part de notre Dieu. Rien n'est trop difficile pour le Seigneur. Devant des situations inespérées, Dieu est la réponse. Dieu est celui sur lequel nous pouvons compter. Nous pouvons lui faire confiance parce qu'il est le rocher. Un rocher, ça, c'est stable, c'est ferme, ça ne bouge pas. La stabilité, on peut lui faire confiance. Heureusement, le Seigneur ne nous traite pas, ne répond pas à nos prières en fonction de notre foi. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Nous aurons tous des combats à mener à des degrés différents pendant notre vie ici-bas. Peut-être ce sera la maladie, ce sera des problèmes familiaux, conjugaux, le chômage, peu importe. La vie chrétienne n'est pas un fleuve tranquille. À des degrés différents, nous aurons des combats à mener pendant notre vie ici-bas. Et face à ces combats, nous disposons d'une arme qui est capable, d'une arme qui est puissante. C'est la prière. C'est la prière. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Et la prière communautaire doit occuper une place importante dans votre vie chrétienne. Je le répète, la prière communautaire ensemble doit occuper une place centrale dans votre vie de tous les jours, dans votre marche chrétienne. Parce que Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Non. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part du Seigneur? Non. Parce que nous servons le Dieu créateur, le Dieu de l'univers, qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous devons croire que Dieu répond aux prières de ses enfants parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui faisait des miracles de l'Ancien Testament n'a pas changé. Le Dieu qui faisait des miracles au début de l'Église primitive n'a pas changé. Il est toujours le même. Et plusieurs parmi nous, nous pouvons témoigner d'une intervention miraculeuse de Dieu en notre faveur. L'Église doit occuper une place centrale dans notre vie chrétienne. Les chrétiens en solo ne glorifient pas Dieu dans leur vie. Ce n'est pas le plan de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu, il a dit, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Le Seigneur est en train de construire, de bâtir son Église jusqu'au jour où la totalité des personnes rachetées seront sauvées. À ce moment-là, le Seigneur viendra prendre son Église. Et j'espère qu'il n'y a personne ici présente qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, si vous n'êtes pas encore repenti de vos péchés et confié votre vie au Seigneur Jésus-Christ, Dieu te tend la main ce matin. Ouvre ton cœur au Seigneur Jésus et laisse-le entrer. Et changera toute l'orientation de ta vie. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen.
Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Merci Seigneur pour ce récit de la vie de ces premiers chrétiens. Tu nous interpelles d'une manière ou d'une autre. Bien souvent, Seigneur, nous voulons que tu sois à notre service. Et pourtant, nous disons que nous sommes tes serviteurs. Mais dans notre vie pratique, nous voulons que tu nous serves. Et tu nous montres à travers ce récit, Seigneur, que ce n'était pas évident pour ces premiers chrétiens. Et même dans le monde aujourd'hui, Seigneur, tes enfants sont persécutés, voire mis à mort. Mais tu demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous pouvons te faire confiance parce que nous savons que tu diriges l'histoire. Et rien qui arrive à ton peuple n'échappe à ta souveraineté. Parce que tu demeures le Dieu de l'univers et tu contrôles tout. Tu as tout entre tes mains. Aide-nous, Seigneur, pendant notre vie ici-bas, à rester attachés à toi, Seigneur, attachés à ta parole et que nous puissions vivre pleinement notre vie communautaire, Seigneur. C'est à cela que tu nous as appelés, Seigneur, parce qu'un jour, nous serons dans ta présence, et cela pour l'éternité, parce que ta parole nous dit un jour, tu nous appelleras auprès de toi où il n'y aura plus de larmes, plus de deuil, plus de tristesse, mais ce sera la félicité éternelle. Et en tant que chrétiens, nous avons cette espérance dans notre cœur qu'un jour nous serons avec toi pour l'éternité. Pendant notre vie ici-bas, Seigneur, en attendant ce jour, que tu puisses nous aider, Seigneur, à mener une vie qui te glorifie. Que nous n'ayons pas un cœur partagé, Seigneur. Un pied dans le monde, mais un pied à l'Église. Non, un cœur tout entier à toi. Et que nous puissions vraiment nous investir, nous engager au sein de notre communauté pour l'avancement de notre règne ici-bas. Que toute la louange, Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi seul, dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen.